il se croyait enfin à peu près délivré de la patronne, à qui il avait exprimé d'une façon claire, presque brutale, sa résolution de rompre, quand il reçut au journal le télégramme l'appelant à 2 heures rue de Constantinople. Il le relisait en marchant. « Il faut absolument que je te parle aujourd'hui. C'est très grave, très grave. Attends-moi à 2 heures rue de Constantinople. Je peux te rendre un grand service. Ton ami jusqu'à la mort, Virginie. » Il pensait « Qu'est-ce qu'elle me veut encore, cette vieille chouette ? Je parie qu'elle n'a rien à me dire. Elle va me répéter qu'elle m'adore. Pourtant, il faut voir. Elle parle d'une chose très grave et d'un grand service. » C'est peut-être vrai, et Clotilde qui vient à 4 heures. Il faut que j'expédie la première à 3 heures au plus tard, sacristie. Pourvu qu'elle ne se rencontre pas, qu'elle rosse que les femmes. Et il songea qu'en effet, la sienne était la seule qui ne le tourmentait jamais. Elle vivait de son côté, mais elle avait l'air de l'aimer beaucoup, aux heures destinées à l'amour, car elle n'admettait pas qu'on dérangeât l'ordre immuable des occupations ordinaires de la vie. Il allait, à pas lents, vers son logis de rendez-vous, s'excitant mentalement contre la patronne. « Ah, je vais la recevoir d'une jolie façon si elle n'a rien à me dire. Le français de Cambronne sera académique auprès du mien. Je lui déclare que je ne fiche plus les pieds chez elle d'abord. » Et il entra pour attendre Madame Walter. Elle arriva presque aussitôt, et dès qu'elle l'eut aperçue. « Ah, tu as reçu ma dépêche, quelle chance !» Il avait pris un visage méchant. « Parbleu, je l'ai trouvé au journal. Au moment où je partais pour la chambre, qu'est-ce que tu me veux encore ?» Elle avait relevé sa voilette pour l'embrasser, et elle s'approchait avec un air craintif et soumis de chienne souvent battue. « Comme tu es cruelle pour moi. Comme tu me parles durement, qu'est-ce que je t'ai fait ? Tu ne te figures pas comme je souffre par toi. » Il grogna. « Tu ne vas pas recommencer. » Elle était debout tout près de lui, attendant un sourire, un geste pour se jeter dans ses bras. Elle murmura. Il ne fallait pas me prendre pour me traiter ainsi. Il fallait me laisser sage et heureuse comme j'étais. Te rappelles-tu ce que tu me disais dans l'église et comme tu m'as fait entrer de force dans cette maison? Et voilà maintenant comment tu me parles, comment tu me reçois, mon Dieu, que tu me fais mal !» Il frappa du pied et violemment « Ah, mais zut ! En voilà assez ! Je ne peux pas te voir une minute sans entendre cette chanson-là. On dirait vraiment que j'étais prise à 12 ans et que tu étais ignorante comme un ange. Non, ma chère, rétablissons les faits. Il n'y a pas eu détournement de mineur. Tu t'es donnée à moi en plein âge de raison. Je t'en remercie, je t'en suis absolument reconnaissant, mais je ne suis pas tenue d'être attachée à ta jupe jusqu'à la mort. Tu as un mari et j'ai une femme. Nous ne sommes libres ni l'un ni l'autre. Nous nous sommes offert un caprice, ni vu ni connu, c'est fini. » Elle dit « Oh, que tu es brutale, que tu es grossier, que tu es infâme. Non, je n'étais plus une jeune fille. Mais je n'avais jamais aimé, jamais failli. » Il lui coupa la parole. « Tu me l'as déjà répété 20 fois, je le sais. Mais tu avais eu 2 enfants. Je ne t'ai donc pas défloré. » Elle recula. « Oh, Georges, c'est indigne !» Et portant ses 2 mains à sa poitrine, elle commença à suffoquer, avec des sanglots qui lui montaient à la gorge. Quand il vit les larmes arriver, il prit son chapeau sur le coin de la cheminée. « Ah, tu vas pleurer ? Alors bonsoir. C'est pour cette représentation-là que tu m'as fait venir ?» Elle fit un pas afin de lui barrer la route et, tirant vivement un mouchoir de sa poche, s'essuya les yeux d'un geste brusque. Sa voix s'affermit sous l'effort de sa volonté et elle dit, interrompue par un chevrotement de douleur, « Non, je suis venue pour te donner une nouvelle politique, pour te donner le moyen de gagner 50 000 francs, ou même plus, si tu veux. » Il demanda, adouci tout à coup,
« Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire ?»«
J'ai surpris par hasard hier soir quelques mots de mon mari et de Laroche. Il ne se cachait pas beaucoup devant moi, d'ailleurs. Mais Walter recommandait au ministre de ne pas te mettre dans le secret parce que tu dévoilerais tout. »
Du roi avait reposé son chapeau sur une chaise. Il attendait très attentif.
« Alors qu'est-ce qu'il y a ?»«
Ils vont s'emparer du Maroc. »
« Allons donc. » J'ai déjeuné avec Laroche qui m'a presque dicté les intentions du cabinet.
Non, mon chéri. Ils t'ont joué parce qu'ils ont peur qu'on connaisse leur combinaison.
Assieds-toi, dit Georges. Et il s'assit lui-même sur un fauteuil.
Alors elle attira par terre un petit tabouret et s'accroupit dessus, entre les jambes du jeune homme. Elle reprit d'une voix câline.
Comme je pense toujours à toi.
Je fais attention maintenant à tout ce qu'on chuchote autour de moi. » Et elle se mit doucement à lui expliquer comment elle avait deviné, depuis quelque temps, qu'on préparait quelque chose à son insu, qu'on se servait de lui en redoutant son concours. Elle disait « Tu sais, quand on aime, on devient rusé. » Enfin, la veille, elle avait compris. C'était une grosse affaire, une très grosse affaire préparée dans l'ombre. Elle souriait maintenant, heureuse de son adresse. Elle s'exaltait, parlant en femme de financier, habituée à voir machiner les coups de bourse, les évolutions des valeurs, les accès de hausse et de baisse, ruinant en 2 heures de spéculation des milliers de petits bourgeois, de petits rentiers, qui ont placé leurs économies sur des fonds garantis par des noms d'hommes honorés, respectés, hommes politiques ou hommes de banque. Elle répétait « Oh, c'est très fort ce qu'ils ont fait, très fort. C'est Walter qui a tout mené d'ailleurs, et il s'y entend. Vraiment, c'est de premier ordre. » Il s'impatientait de ses préparations. « Voyons, dis vite. » Eh bien voilà, l'expédition de Tanger était décidée entre eux dès le jour où Laroche a pris les affaires étrangères. Et peu à peu, ils ont racheté tout l'emprunt du Maroc qui était tombé à 64 ou 5 francs. Ils l'ont racheté très habilement, par le moyen d'agents suspects, véreux, qui n'éveillaient aucune méfiance. Ils ont roulé même les Rothschild, qui s'étonnaient de voir toujours demander du marocain. On leur a répondu en nommant les intermédiaires, tous tarés, tous à la cote. Ça a tranquillisé la grande banque, et puis maintenant, on va faire l'expédition et dès que nous serons là-bas, l'État français garantira la dette. Nos amis auront gagné 50 ou 60 millions, tu comprends l'affaire? Tu comprends aussi comme on a peur de tout le monde, peur de la moindre indiscrétion. » Elle avait appuyé sa tête sur le gilet du jeune homme, et les bras posés sur ses jambes, elle se serrait, se collait contre lui, sentant bien qu'elle l'intéressait à présent, prête à tout faire, à tout commettre, pour une caresse, pour un sourire. Il demanda « Tu es bien sûr ?» Elle répondit avec confiance « Oh, je crois bien !» Il déclara « C'est très fort, en effet. Quant à ce salaud de Laroche, en voilà un que je repincerai. Oh, le gredin, qu'il prenne garde à lui! Qu'il prenne garde à lui! Sa carcasse de ministre me restera entre les doigts !» Puis il se mit à réfléchir et il murmura « Il faudrait pourtant profiter de ça. » « Tu peux encore acheter de l'emprunt ?» dit-elle. « Il n'est qu'à 72 francs. » Il reprit « Oui. Mais je n'ai pas d'argent disponible. » Elle leva les yeux vers lui, des yeux pleins de supplications. « J'y ai pensé, mon chat. Et si tu étais bien gentil, si tu m'aimais un peu, tu me laisserais t'en prêter. » Il répondit brusquement, presque durement. « Quant à ça, non, par exemple. » Elle murmura d'une voix implorante. « Écoute, il y a une chose que tu peux faire sans emprunter de l'argent. Je voulais en acheter pour 10 000 francs de cet emprunt, moi. Pour me créer une petite cassette. Eh bien, j'en prendrai pour 20 000. Tu te mets de moitié. Tu comprends bien que je ne vais pas rembourser ça à Walter. Il n'y a donc rien à payer pour le moment si ça réussit. Tu gagnes 70 000 francs si ça ne réussit pas. Tu me devras 10 000 francs que tu me paieras à ton gré. » Il dit encore « Non, je n'aime guère ces combinaisons-là. » Alors elle raisonna pour le décider. Elle lui prouva qu'il engageait en réalité 10 000 francs sur parole, qu'il courait des risques par conséquent, qu'elle ne lui avançait rien, puisque les déboursés étaient faits par la banque Walter. Elle lui démontra en outre que c'était lui qui avait mené dans la vie française toute la campagne politique qui rendait possible cette affaire, qu'il serait bien naïf en n'en profitant pas. Il hésitait encore. Elle ajouta « Mais songe donc qu'en vérité, c'est Walter qui te les avance, ces 10 000 francs. » et que tu lui as rendu des services qui valent plus que ça. « Eh bien, soit, dit-il, je me mets de moitié avec toi, sinon perdons, je te rembourserai 10 000 francs. » Elle fut si contente qu'elle se releva, saisit à deux mains sa tête et se mit à l'embrasser avidement. Il ne se défendit point d'abord, puis comme elle s'enhardissait, l'étreignant et le dévorant de caresses, il songea que l'autre allait venir tout à l'heure et que s'il faiblissait, il perdrait du temps et laisserait au bras de la vieille une ardeur qu'il valait mieux garder pour la jeune. Alors il la repoussa doucement. « Voyons, sois sage, » dit-il. Elle le regarda avec des yeux désolés. « Oh, Georges, je ne peux même plus t'embrasser. » Il répondit « Non, pas aujourd'hui. J'ai un peu de migraine et cela me fait mal. » Alors elle se rassit, docile, entre ses jambes. Elle demanda « Veux-tu venir dîner demain à la maison? Quel plaisir tu me ferais !» Il hésita, puis n'osa point refuser. « Mais oui, certainement. Merci, mon chéri. » Elle frottait lentement sa joue sur la poitrine du jeune homme, d'un mouvement câlin et régulier, et un de ses longs cheveux noirs se prit dans le gilet. Elle s'en aperçut, et une idée folle lui traversa l'esprit, une de ces idées superstitieuses qui sont souvent toute la raison des femmes. Elle se mit à enrouler tout doucement ce cheveu autour d'un bouton. Puis elle en attacha un autre au bouton suivant, un autre encore à celui du dessus. À chaque bouton, elle en nouait un. Il allait les arracher tout à l'heure en se levant. Il lui ferait mal, quel bonheur! Et il emporterait quelque chose d'elle sans le savoir. Il emporterait une petite mèche de sa chevelure dont il n'avait jamais demandé. C'était un lien par lequel elle l'attachait, un lien secret, invisible, un talisman qu'elle laissait sur lui. Sans le vouloir, il penserait à elle, il rêverait d'elle, il l'aimerait un peu plus le lendemain. Il dit tout à coup « Il va falloir que je te quitte parce qu'on m'attend à la chambre pour la fin de la séance. Je ne puis manquer aujourd'hui. » Elle soupira « Oh, déjà !» Puis résignée « Va, mon chéri, mais tu viendras dîner demain. » Et brusquement, elle s'écarta. Ce fut sur sa tête une douleur courte et vive, comme si on lui eût piqué la peau avec des aiguilles. Son cœur battait. Elle était contente d'avoir souffert un peu par lui. « Adieu !» dit-elle. Il la prit dans ses bras avec un sourire compatissant et lui baisa les yeux froidement. Mais elle, affolée par ce contact, murmura encore une fois « Déjà ?» Et son regard suppliant montrait la chambre dont la porte était ouverte. Il l'éloigna de lui et d'un ton pressé « Il faut que je me sauve, je vais arriver en retard. » Alors elle lui tendit ses lèvres qu'il effleura à peine et lui ayant donné son ombrelle qu'elle oubliait, il reprit « Allons, allons, dépêchons-nous, il est plus de 3 heures. » Elle sortit devant lui. Elle répétait « Demain, 7 heures. » Il répondit « Demain, 7 heures. » Ils se séparèrent, elle tourna à droite et lui à gauche.